بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام نور ميسر الله عز وجل qui nous accepte, qui nous donne la possibilité, qui nous donne tawfiq, qui a assez de pitié, rahma, pour nous donner la possibilité de nous ressourcer spirituellement, de nous asseoir dans une assemblée dont on n'a même pas le mérite, ni celui qui intervient, ni ceux qui écoutent. On n'a pas cette, théoriquement ce potentiel spirituel suffisant pour participer à une assemblée où les malaïkas sont présents, où les péchés sont pardonnés, où le nom de chaque individu est cité auprès d'Allah. Nous, on n'a pas ce niveau. Normalement, on ne mérite pas d'être présent dans une assemblée où on étudie la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, tellement notre vie est entachée de fautes, de péchés, d'erreurs, d'erreurs de jugement, qui concrétisent les faiblesses de la foi. Mais malgré tout ça, Allah Azza wa Jal nous accepte. Et ça, c'est déjà un ni'mah. On doit remercier Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permet de venir dans sa maison, dans la masjid. Qu'Allah nous permet de nous prosterner devant lui. Qu'Allah nous permet de nous asseoir ensuite un instant, 10 minutes, 15 minutes. On essaie d'écouter, de comprendre qu'est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ikhwani fillah, on parlait tout à l'heure de l'annonce concernant la suppression des cours demain par rapport à la tempête tropicale qui va passer près de l'île. On parle de 15 kilomètres de l'île demain. Quelle est la première réaction dans les foyers? Pour les enfants, c'est la joie. Alors, je reçois des textos, des SMS. Merci Carlos, gracias Carlos. Les enfants sont contents. Ils sont contents parce que cyclone, on reste à la maison, il n'y a pas à l'école et ainsi de suite. Maintenant, au-delà de la réaction qui a été peut-être la nôtre aussi quand on était, ça nous rappelle de bons souvenirs. Et maintenant, quelle est la vraie réaction du mu'min, du croyant? Le croyant, ikhwani fillah, c'est une personne qui s'en remet à Allah, c'est une personne qui voit le monde avec son iman, avec sa foi. C'est une personne qui perçoit les choses comme Allah Azza wa Jal l'attend de l'être humain. Comme Allah Rabbul Izzah attend du mu'min qui ne vit pas pour ce monde mais qui vit pour l'au-delà. Wa hum bil akhiratihum yuqinun. Qui ont une yaqin, une conviction sur l'au-delà. Ça nous permet de nous ramener vers al-yaqin wa tawakkul. Donc, le mu'min, il perçoit les choses d'une façon différente. L'enfant, on a vu sa vision des choses. Certains adultes, ils sont tristes parce que bon, il y a pas cours, les établissements scolaires sont fermés, mais ils n'ont pas décrété la lettre orange, donc la vie économique continue, je dois aller au travail, je dois aller tel endroit, parfois passer la route littorale avec le danger qu'il y a, et ainsi de suite. C'est-à-dire, chacun va percevoir les événements de ce monde en fonction des yeux de ce monde, en fonction des oreilles de ce monde, malheureusement, en fonction d'un cœur qui est imbibé des réalités, des valeurs de ce monde, de ce dunya. Lorsque notre prophète, alayhi salat wa salam, voyait des nuages s'approcher de Médine, et il y avait un peu de vent, notre prophète, alayhi salat wa salam, était inquiet. Alors que les sahaba étaient contents, parce que qui dit nuage, c'est la pluie. La pluie, subhanallah, c'était bénéfique. On sait tous qu'à Médine, les ansar, principalement, étaient des agriculteurs. D'accord? Donc, ils travaillaient la terre, et pour eux, la pluie, c'était, subhanallah, c'était quelque chose de bénéfique. Permettez-moi une petite parenthèse. Une parenthèse, c'est vraiment une parenthèse qui n'a aucun rapport avec le din, mais c'est un rapport avec la baraka que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait invoqué le dua qu'il avait fait pour la terre de Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parenthèse, dans la parenthèse, lorsqu'il a quitté Makkah, le cœur lourd, attristé, de devoir quitter Umm al-Qura, de devoir quitter la meilleure terre de ce dunya, lorsqu'il arrive à Médine, il voit que les sahaba étaient attristés. Et ça, c'est une leçon c'est une réalité que le professeur nous a enseigné et que, bidnillah, on a vu à travers notre vécu dans bidnillah, les études à l'Évêque Saint. On avait des amis qui étaient maqués et lorsqu'ils étaient à Médine, on leur demandait, on dit, Médine, mashallah, khayrul lakum, vous êtes plus content d'être là. Ils ont dit qu'alhamdulillah, ça c'est Médine, tu Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. mais dans leur cœur, Makkah reste Makkah. Et ça, c'est une spécificité des Ahlou Makkah. Ils sont enracinés, ils sont attachés à la terre qui est la meilleure terre de ce dunya. Et donc, quand le prophète a quitté Makkah pour s'installer à Médina, il a vu la tristesse des sahaba, il a levé ses mains, il a dit, « Ya Allah, accorde à cette terre de Médine le double de la bénédiction que tu as accordée à Makkah. » Et Makkah bénéficiait de quel dua? De quel prophète, je veux dire? D'Ibrahim alayhi salam. Et Al-Madina a bénéficié des doua Sayyid al-Anbiya al-Nabi Muhammad Mustafa alayhi afdalu salat wa tamu taslim. Ça, c'était une première parenthèse en rapport avec l'agriculture. Et pour revenir à ce que j'allais dire, je n'ai jamais mangé de melon, de pastèque aussi bonne, aussi douce que celle qui pousse dans le désert aride de Madina Munawwara. C'est quelque chose d'incroyable. On est dans le désert en été. Et subhanallah, hikmatullah. Hikmatullah, la sagesse d'Allah, c'est que ce genre de fruits, hein, on passe un cours sur l'agriculture, mais tout ça c'est ayatullah, les signes d'Allah. En, à Al-Madina, en été, dans ma voiture, il y avait 52 degrés affichés sur le thermomètre, ba'da salat al-dhuhr, une chaleur qui est exceptionnelle. Vous marchez avec vos savates, si ce n'est pas les grosses savates, la chaleur du bitume, du goudron, ben ça touche vos pieds. Les routes parfois fondent le goudron, si ce n'est pas de bonne qualité. Bref, une chaleur qui est exceptionnelle, extraordinaire, qu'on a du mal à concevoir. De cette chaleur, Allah Azza wa Jal fait sortir des fruits qui sont remplis d'eau. Et subhanallah, lorsque vous sortez par exemple de la salat al-Jum'a avec une telle chaleur et que vous avez mis, machin, une grosse tranche de pastèque au frigidaire, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. C'est comme si vous goûtez un bienfait du paradis. Sahih wallah. Et dans ce genre de situation, il y a deux choses. Premièrement, tu dis alhamdulillah wa shukrulillah. Allah nous accorde ce bienfait, premièrement. Deuxièmement, Allah nous accorde la santé. Nous avons la possibilité de manger, de digérer et donc de jouir, de bénéficier du bienfait. Et troisièmement, ça te fait rappeler les ni'mas de l'au-delà. Peut-être que Allah me donne la possibilité, raja'an, on a espoir, qu'Allah me donne la possibilité de manger des fruits du jannah, du paradis, qui est incomparable. Ma'ana aynun ra'at, ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Wala udhunun sami'at, aucun oreille n'a jamais entendu. Wala khatara ala qalbi bashar, ce qu'aucun cœur ne peut imaginer. Subhanallah, qu'Allah Rabbul Izzah, de sa clémence, de sa miséricorde, de sa rahma, nous accorde ce Jannatul Firdaus et qu'Allah nous réunisse tous ensemble, comme nous sommes là présents, pour manger, inshallah, des fruits du paradis à l'ombre des arbres du Jannah. Allahumma amin. Et donc, ce qui est ajib, en parlant avec des agriculteurs, on reste dans ce domaine, d'accord, disent que les habhab, ils appellent ça habhab, en arabe on dit kharbouz, mais dans le dialecte du subhanallah, du Hijaz, de la zone de Madina, Makkah, on appelle ça le habhab. Disent que le meilleur melon, c'est celui qui a eu un peu d'eau de pluie. Et on différencie tout de suite un melon qui a bénéficié de l'eau normale, et l'eau, y a pas, là-bas l'eau normale c'est quoi? C'est l'eau de mer qui est dessaliné. Elle dit alors que lorsqu'un melon, hein, ou n'importe quelle chose qui pousse de la terre, a eu un peu d'eau de pluie, ça c'est Mubarak. Et le goût se sent immédiatement. Et c'est extraordinaire. Et un melon comme ça, je vous dis, allez au petit marché, essayez d'acheter un melon comme ça. Comment il coûte? En 12 et 15 euros, un gros melon. Hab hab rial. Hab hab rialain. Un melon, c'est un rial ou deux rials. C'est énorme. Tu portes sur ton épaule comme ça, tu manges trois jours. Avec ta femme et tes enfants. Ni'ma minallah. Et quand on revient sur la hikmah d'Allah, on délaisse le domaine de l'agriculture pour venir vers les bienfaits qu'Allah nous accorde au quotidien. Même là, on était à La Réunion, quand il fait chaud, vous mangez des fruits comme les ananas, les mangues et les fruits de la passion. Ce qui vous revient comme réaction spirituelle, parce que nous voyons, nous comprenons les choses avec notre iman, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde ce genre de bienfaits qui nous désaltère, qui nous permet d'avoir une certaine jouissance et une approche peut-être des bienfaits de l'au-delà. Il nous manquait une quatrième réaction. Et cette réaction, je l'ai dit à la fin, pour ne pas gâcher l'ambiance, c'est lorsqu'Allah nous accorde un bienfait, il faut avoir cette crainte que il ne faut pas qu'Allah m'accorde toutes les récompenses de ce monde et qu'il n'y ait rien pour moi de l'au-delà. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, une fois, il allait manger. Il avait servi, un bol de soupe. On ne parle pas d'un festin, un bol de soupe. Et il allait manger. Tout d'un coup, il s'est arrêté. Parce qu'il a pensé à Moussa bin Umair, radiallahu anhu, son compagnon, son ami qui était décédé lors de la bataille de Badr ou Uhud? Uhud, attention. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud, il a cité un verset, si le verset nous revient, « فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ » Dans le sens du verset, il a dit que certains ont déjà eu leur récompense auprès d'Allah. Et là, il a pensé à Moussa ibn Umayr, qui est, on connaît dans quelles conditions il a donné sa vie, porte-drapeau de l'étendard de l'islam jusqu'à, subhanallah, la dernière limite humaine possible. Et comment, lorsqu'il a été enterré, il n'y avait pas suffisamment de kafan, de tissu, de linceul pour couvrir son corps, tellement il a vécu dans la pauvreté. Faqr. Faqr. Bima'an al-kalima, une pauvreté qu'on ne peut même pas imaginer. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas les moyens, on est un peu pauvre, ainsi de suite. Ça, ça y est, ce n'est pas la pauvreté. Septième parenthèse. Poser une question à un élève ce matin. Un élève qui n'est pas venu pour la madrasa à 5h30. Je dis, pourquoi tu n'es pas venu? Il m'a dit qu'il ne s'est pas réveillé. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle à 5h, comme on fait pour d'autres élèves. Il m'a dit, je n'ai pas de GSM. J'ai plaisanté. Je lui ai dit, tu es pauvre? Il m'a dit, oui, je suis pauvre, Moussa. Il m'a dit, khalas. J'ai dit, tu as Canal Sat? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, tu as 9 box SFR avec 80 chaînes? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, tu appelles ça être pauvre? Na'udhu billah. On a une conception parfois de la pauvreté, mais c'est qu'en fait, on n'a pas donné priorité à ce qui est réellement prioritaire. Et donc, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il allait jouir d'un bienfait, c'est-à-dire son repas rizq halal, subsistance licite, où il n'y a pas de israf, il n'y a pas de gaspillage. Il pense à Moussa ibn Umayr qui a donné sa vie. Il a choisi la pauvreté à la richesse. You know, un des jeunes les plus admirés de Mecca. Lorsque Moussa ibn Umayr passait dans une ruelle, le parfum restait tellement, il mettait des parfums qui coûtaient cher et qui sentaient bon. Le jeune homme le plus élégant, le plus convoité de Mecca, mais qui voit le haqq, avec la vérité avec le Prophète sallam, et qui suit le Prophète sallam, et que sa famille dit, si tu suis Mohammed, on te chasse, on te déshérite, tu n'appartiens plus à notre kabila, à notre tribu. Moussa ibn Umayr, et face à un dilemme entre al-haq et al-batil. Et ce batil-là, il y a un ladha, comme on dit, il y a un madja dedans. De le batil, de le faux, il y a un plaisir. Mais ce plaisir, il est illusoire. C'est un plaisir, c'est tazyin. C'est shaytan, alayhi n'amtullah, qui embellit les bonnes actions. Il y avait un verset encore qui va dans ce sens. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Barakallahu fi. C'est-à-dire, Shaytan embellit les péchés. Il te fait croire, il arrive à te persuader que dans le haram, il y a un bonheur. Mais certainement, il y a une partie de bonheur. Lorsque l'ange Jibril, alayhi salam, a visité l'enfer, et il a vu que l'enfer est entouré de shahawat, de passions, de pulsions, de tout ce que l'homme aime. Et l'ange Jibril alayhi salam connaissait suffisamment Bani Adam, l'être humain. Et il a dit à Allah Azza wa Jal, jamais un être humain ne pourra s'échapper de l'enfer. Jamais, ce qu'il voulait dire, c'est que jamais un être humain ne pourra résister à tous ses appels vers le haram, vers les choses qui lui sont chères. Toutes les faiblesses de l'homme, le nafs, le hawa, les shahawat, les choses que les anges n'ont pas. Et Jibril alayhi salam savait comment est l'homme, l'être humain. Il s'est dit que jamais un homme ne pourra accéder, ne pourra se protéger, ne pourra pas succomber au Jahannam tellement il y a des péchés qui invitent vers l'enfer. Mais nous, ikhwani, fillah, lorsque nous analysons la vie de Moussa ibn Umayr, où il y a ce batil, la famille, l'honneur, la richesse, l'héritage, la garantie d'avoir une vie confortable pour lui et sa femme, sa future femme et ses enfants, mais il sait que ça c'est batil. Et que de l'autre côté, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Qulu la ilaha illallah tuflihoun » Dites qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et vous aurez le succès. Et qu'avec ce succès, il n'y a pas la richesse. « Ahasiban nas wa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun » Quand il y a iman, quand il y a un désir de se rapprocher vers Allah azza wa jal, il faut s'attendre à des fitna, à des épreuves. Allah Rabbul Izzah, avant qu'il accepte une personne, il va tester est-ce que la personne est ferme dans sa foi. Et donc, Moussa ibn Umayr, il savait qu'il y aurait des difficultés dans le fait de suivre Muhammad alayhi salatu wassalam, mais il l'a fait. Il l'a fait, il est resté dans la pauvreté. Et il est décédé donc, shahid, lors de cette campagne, et donc pas assez de vêtements pour couvrir son corps. Et là, les sahabas qui le connaissaient, qui l'avaient côtoyé à Mecca, ils pensent à ce fameux Moussa bin Umair d'avant, qui avait autant de richesses, et comment il est maintenant. Mais là aussi, il y a le regard de l'être humain neutre. Le regard neutre dit comment il était riche, comment il est mort, le pauvre, dans tel, il est mort de la misère. Mais le regard de foi, de iman, c'est un regard d'admiration, barakallahu fik. C'est un regard d'admiration. Vous voyez comment est-ce que le iman, yanqalibul umur, le iman te donne une vision totalement différente. Là où les gens s'attristent, ils pensent que c'est dommage, si jeune, dans telle condition, où il était avant, d'où il vient, et ainsi de suite. Et que la personne se dit que, subhanallah, ça c'est un jeune homme qui a donné sa vie pour Allah. Il fera certainement partie de ceux qui ont grandi, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Il a donné, il a tout sacrifié pour Allah. Et donc, il meurt avec cette situation donc de pauvreté. Et comment est-ce qu'il va être élevé auprès d'Allah, yawmul hashr? Parce que chaque être humain est ressuscité dans la situation où elle a quitté ce dunya. Et donc celui qui a quitté le monde comme cet homme, subhanallah, il est ressuscité avec le sang du shahid qui coule et tout l'honneur qui revient auprès d'Allah, azza wa jal. Qu'Allah nous accorde husnun khatima, une mort, une bonne mort dans l'obéissance, ta'a. Le mu'min doit tous les jours, demander à Allah, azza wa jal, husnun khatima. C'est pas uniquement celui qui est âgé. Ce n'est pas uniquement celui qui a dépassé 60, 70, 80 ans. Non, n'importe quel croyant, jeune, vieux, parce qu'on a assez d'expérience, on a assez vu de choses autour de nous pour réaliser qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Donc le mu'min se doit, celui qui est intelligent, qui voit les vrais objectifs, et que l'objectif final, ce n'est pas d'avoir telle chose, d'obtenir tel poste ou autre, mais c'est vraiment qu'Allah nous accepte, et qu'Allah reprenne notre vie par l'intermédiaire de ses malaïka, alors qu'il est satisfait de nous. La mort, husnul khatima, c'est mourir dans le droit chemin lorsqu'on est régulier dans ses a'mal, lorsqu'on est ferme dans l'éloignement du haram, lorsqu'on a été correct avec tout le monde en termes d'akhlaq, en termes de mu'amala, on doit d'argent à personne, mais également mourir idéalement avec shahadatain, qu'Allah nous accorde cet honneur de talqin, de shahadatain avant de mourir, mais également mourir idéalement en accomplissant une bonne action. Le mu'min doit rêver de mourir un jour dans la masjid. Le croyant doit rêver de mourir un jour en accomplissant la salat, la prière, le tahajjud, dans les prosternations. Est-ce que ça nous fait rêver? Si ça n'a jamais effleuré notre esprit, c'est qu'on a besoin encore de travailler notre relation avec Allah. C'est qu'on est tellement aspiré par les réalités de ce monde qu'on oublie parfois le moment de mufaraqatul haya, le moment où on quitte ce dunya, on retourne vers Allah. Alors que le mu'min doit y penser tout le temps. Il doit y penser sans arrêt, parce que c'est l'objectif de sa vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et quelle est la limite de l'adoration d'Allah? C'est la mort. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Jusqu'à la mort, le mu'min se doit de rester dans le ta'a, de l'obéissance, qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde ses qualités, qu'Allah nous accorde la vision du mu'min, et qu'Allah nous accorde vraiment les qualités intérieures de la foi et les qualités extérieures, les jawarih, les a'mal, qui nous donnent la possibilité de nous rapprocher de lui. Donc on revient à notre ami, à Carlos. Donc, les enfants, ils sont contents. Les adultes, ils grognent parce qu'ils doivent aller au boulot et que l'alerte, comment on appelle ça, orange, n'a pas été décrétée. Le mu'min doit voir la réaction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il voyait le vent et les nuages s'approcher de Madine à Munawwara, il avait la vision du prophète. La vision du prophète qui rejoint celle de ses autres frères prophètes. Il était inquiet. Les sahaba étaient heureux parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est parti vers d'autres sujets. Il a dit que, ô prophète d'Allah, nous sommes contents. Il y aura de la pluie, il y aura donc une bonne... il y aura de l'agriculture. Enfin, les récoltes seront correctes cette année. Les dates ou les melons, peu importe. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelle aux sahaba que lorsque les peuples avant nous, ils attendaient également la venue de la pluie, du vent. Ils étaient contents de voir ce que vous êtes en train de voir, mais ils ne savaient pas qu'à travers ce vent et cette pluie, il y avait le châtiment qu'Allah les avait réservé. Donc le prophète était inquiet. Quand il y avait du vent, quand il y avait de la pluie, le prophète se réfugiait dans la masjid, dans la mosquée, et il faisait doua, il demandait protection à Allah Azza wa Jal. Donc pareil, on a un phénomène qui s'approche. N'écoutez surtout pas les météorologues. Ce n'est pas eux qui décident qu'un cyclone est fort, c'est pas fort, qu'il est sans danger. Parfois, l'endroit où j'habitais, avant, enfin À Saint-Denis, en face de moi, il y avait un voisin qui avait un jardin, il avait un dattier. Et l'arbre le plus solide, je ne sais pas pourquoi on reste dans ce domaine ce soir, ça ne donne pas une indication sur mes orientations politiques, hein, je vous donne la garantie. Il avait un dattier. Vous savez que le dattier, c'est l'arbre le plus solide au monde. Le dattier, quand il est enraciné, il est impossible de le déraciner. J'ai vu de mes yeux, quand on était étudiant en salle de classe, on voyait quand il voulait, enfin, les jardiniers voulaient déplacer un dattier. Il fallait qu'il fasse venir les camions, vous savez, les camions, comment on appelle ça, les remorques, là, pour tirer les voitures en panne. Même avec la remorque, ils n'arrivaient pas à déraciner un dattier. Ce n'était pas des grands dattiers, un dattier d'un mètre vingt, mètre trente. Ça, quand c'est enfoui dans la terre, subhanallah. Et donc, j'ai souvenir qu'il y avait une période de forte pluie, mais pas un cyclone. Ben, subhanallah, du jour au lendemain, un dattier qui faisait subhanallah au moins 3 mètres de haut, il est tombé. Donc, c'est étalé sur toute sa cour. C'est-à-dire que ce n'est pas un météorologue qui va vous dire que vous êtes en sécurité ou que vous êtes en danger. Le mu'min, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Même si on dit qu'il a perdu d'intensité, c'est plus un cyclone tropical, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal qui doit éveiller nos cœurs. Ça ne doit pas être un phénomène météorologique tout à fait normal, naturel, qui se produit dans cette saison par rapport au vent chaud, au vent humide. Ça, c'est l'explication scientifique. Ça, c'est comment Allah organise la création. Mais le sens, le message, c'est pas le météorologue qui va vous dire. Le sens, le message, c'est l'enseignement prophétique. Le mu'min doit toujours craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal et demander beaucoup d'istighfar et surtout demander à Allah Azza wa Jal protection pour nous, pour notre famille, pour nos biens, pour nos enfants et pour l'ensemble des personnes mu'min ou ghayr mu'min qui nous entourent de notre voisinage. Qu'Allah nous protège tous contre ce phénomène. Allahumma amin. Ikhwani fillah, on a pris quand même un peu de temps. Comment est-ce qu'on reconnaît un mu'min qui a développé la confiance en Allah, qui a yaqin en Allah Azza wa Jal? C'est celui qui vit à travers l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. C'est celui qui vit avant tout à travers les promesses d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on avait expliqué lundi dernier. Maintenant, l'enseignement prophétique, l'enseignement du Coran, on voit son application à travers les meilleurs des hommes, c'est-à-dire les sahaba. On avait vu avec la bataille de Ahzab, la position des croyants, ils ont vu une situation très compliquée, peut-être des plus compliquées de l'histoire des campagnes et de tous ces événements. Et les hypocrites, mais également ceux qui avaient une faiblesse de foi, qui doutent de tout, qui n'ont pas conviction, qui n'ont pas la confiance en Allah Azza wa Jal, ils se sont mis à douter des promesses que le prophète sallam a reçues de la part d'Allah, aller jusqu'à la paix, jusqu'à César et ainsi de suite. Ils se disent qu'on va peut-être mourir là, ici, à Madina. On va peut-être voir notre femme et nos enfants mourir devant nous parce qu'on est encerclé, il y a un ennemi également de l'intérieur. Donc, daf, faiblesse dans la confiance en Allah, ce qui ramène vers al-ajz, l'incapacité à agir, à produire, et donc un sentiment de faiblesse qui envahit la personne et qui montre une absence totale de confiance en Allah. C'est une épreuve où l'homme a échoué, qu'Allah nous protège. Et les croyants, ça c'est extraordinaire, le usloub du Coran. Et lorsque les croyants ont vu les coalisés, théoriquement, à quoi on s'attend? On s'attend à ce qu'on parle de qu'ils se sont rendus compte qu'il y a, certes, il y a eu un verset qui décrit l'angoisse, mais l'angoisse c'est une réaction humaine, comme on a dit, on avait parlé du Jum'a, de la tristesse lors du décès d'un proche. Ce sont des réactions humaines. Mais après, quand la foi prend le dessus, qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu, et cela a augmenté leur foi. Qu'est-ce que cela a produit? Ils ont vu le danger et ils se sont dit que voilà la promesse d'Allah. C'est-à-dire que ce qu'Allah a promis à son prophète sallam, ça va se réaliser quelle que soit la situation qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que n'écoute pas tes yeux, n'écoute pas tes oreilles, n'écoute pas le monde. Ne vois pas ce qui se passe, garde confiance en Allah Azza wa Jal. Et au-dessus des sahaba, les exemples de confiance et de conviction en Allah Azza wa Jal, on va dire c'est l'extrême spirituel, c'est le summum en termes de spiritualité, ce sont les prophètes alayhi salat wa salam. On a Ibrahim alayhi salam, qui est dans la catapulte, qui est projeté dans ce feu qui a été préparé par ses ennemis. Jamais il y a eu dans l'histoire de l'humanité un feu aussi ardent, aussi brûlant, aussi préparé que le feu que les ennemis avaient préparé pour Ibrahim alayhi salam, qu'ils pouvaient même plus s'approcher du feu pour jeter Ibrahim alayhi salam. Ils ont choisi la solution de la catapulter Nabiullah pour qu'il tombe dans le feu parce qu'il ne pouvait même plus donc s'approcher de ce feu. Lorsqu'il est dans cet engin et qu'il est propulsé, il est dans l'air, un ange lui demande s'il a besoin d'aide. Et Ibrahim alayhissalam, c'est Ibn Kathir, rahimahullah, qui raconte de façon magnifique dans Al-Bidaya, non, dans Qasasul Anbiya, l'histoire des prophètes. Ibn Kathir, rahimahullah, il relate donc Ibrahim alayhissalam a reçu la visite de cet ange. Et combien de temps ça prend entre quelqu'un est propulsé, il tombe, c'est quelques secondes, d'accord? Et l'ange lui demande s'il a besoin d'aide, il dit qu'auprès de toi, non, mais j'ai de l'aide auprès de mon Seigneur. Je suis persuadé qu'Allah va m'aider. C'est-à-dire que là, on touche à l'extrême, c'est à quelques secondes avant la mort, une mort terrible. Ibrahim alayhi salam, il a confiance en Allah, il sait pertinemment qu'Allah azza wa jal ne le laissera jamais tomber. Allah azza wa jal va le protéger parce qu'il est Nabiullah et parce qu'il a confiance en Allah azza wa jal. Et quand on a yaqin, une conviction qu'on travaille au quotidien par les a'mal et par les petites situations d'épreuve, on s'en remet à Allah, mais dans les grosses situations où les gens craquent, où les gens sombrent, où les gens perdent pied, ils se découragent, le mu'min, il s'accroche à Allah azza wa jal. Il s'accroche à la promesse d'Allah, il sait qu'Allah va l'aider. Et comme ça a été décrit de façon exceptionnelle par l'auteur, il dit c'est comme si que l'homme est capable de marcher à l'aveuglette. On lui dit qu'il faut aller dans ce sens, mais il ne voit rien du tout. C'est comme si il y a un précipice, mais il sait qu'Allah nous a demandé d'aller dans ce sens. On y va et Allah nous protégera. Même si tes yeux te disent, n'y va pas. Même si ton cerveau, ton esprit cohérent, il te dit que ça c'est un danger. Mais s'il y a la promesse d'Allah, le mu'min s'en remet à Allah Azza wa Jalla. Ça paraît un peu extraordinaire, mais ça c'est le résultat de la confiance en Allah. Ibrahim alayhi salam qui va tomber dans le feu, il sait qu'Allah va lui venir en aide. Il reste quelques secondes avant qu'il brûle, qu'il tombe dans ce feu. Et quand il atterrit, « Qulna ya naru kuni bardan » Pas uniquement bardan, « wa salaman ala Ibrahim » Allah Azza wa Jalla ordonne au feu. Est-ce que ça transité par l'intermédiaire d'un ange? Aucunement. La Nusra d'Allah vient avec des intermédiaires ou sans intermédiaire. Badr, les anges sont venus. Ibrahim alayhi salam, c'était sans intermédiaire. C'est-à-dire, Allah azza wa jal agit de la façon qu'il sait qui est le mieux adapté et qui saura être une leçon pour l'humanité. Et donc, Allah ordonne au feu de changer sa tabi'a, de changer sa nature. Il passe de har, de chaud, à bard, froid. Et c'est un froid qui est salam. Salam, c'est la paix. Un endroit qui est paisible. Ibrahim alayhi salam, selon certaines sources, il est resté à peu près une quarantaine de jours, a confirmé le nombre de jours dans ce feu. Et il témoigne qu'il n'a jamais vécu de moment aussi apaisé que lorsqu'il était dans ce feu, parce que c'était un endroit de salam, de paix. Notre prophète Moussa alayhi salam est près de la mer. Et Allah azza wa jal lui a demandé d'amener son peuple. Tous les Banu Israël, c'est des centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas 10 personnes, c'est des centaines de milliers de personnes. C'est un peuple qui habitait l'Égypte. Tout ce peuple doit quitter l'esclavage de Pharaon et ils doivent aller vers cet endroit. Arriver à cet endroit, c'était exactement cet endroit qu'Allah Azza wa Jalla a demandé à Moussa alayhi salam de venir. Ils se rendent compte qu'à l'endroit précis, il y a la mer et des deux côtés, il y a des montagne, et que derrière il y a quoi? L'armée de Pharaon, l'armée la plus puissante au monde à cette époque, l'homme le plus cruel au monde, le seul qui a osé dire Ana Rabbukumul A'la. Il a osé dire aux gens que je suis votre Seigneur, que le Nil ça coule sous mes pieds, tout ça c'est à moi. Il a prétendu avoir le Rububiyya et le Uluhiyya, que c'est à lui la création et que l'adoration lui revient. A'oudhu billah. Un homme d'une cruauté qu'on ne retrouvera peut-être pas dans l'histoire. Et pareil chez les Banu Israël, on a certaines personnes qui ont commencé à douter. Et ces doutes se manifestaient à travers quelques questions. Ya Moussa, est-ce que tu es sûr qu'Allah t'a demandé de venir là? Et Moussa alayhi salam, avec une sérénité, un calme de Nabi, mais également une confiance de Nabi, c'est-à-dire le summum de la confiance en Allah. Mais c'est un homme qui a été prouvé. C'est un homme qui a été prouvé, qui a dû dépasser ses 5 sens pour avoir confiance en Allah. Quand il voit ce serpent, c'était comme un boa, on pourrait dire, un des plus gros serpents, et qu'Allah Rabbul Izzah lui demande de l'attraper par le cou, près de sa tête. Moussa al-Islam a peur. Mais Allah Azza wa Jalla lui dit « La takhaf ». Et il l'attrape. et que ce serpent redevient un bâton. C'est-à-dire qu'il va dépasser ses sens pour s'en remettre à Allah. Ça, c'est une manifestation de le tawakkul, de la confiance en Allah Azza wa Jal. Il a dû fuir à l'Égypte, oui ou non? Il a dû fuir après avoir tué accidentellement une personne parmi les Coptes. Il fuit et il revient. Et lorsqu'il revient, il revient sous l'ordre d'Allah. S'il n'y avait pas l'ordre d'Allah, jamais il ne serait revenu vers Pharaon. Il a fui Pharaon. Il est parti vers le royaume, vers l'endroit où habitait Shu'aib alayhi salam. Il s'est marié. Il avait une vie. Il a travaillé la terre. Il était épanoui. Il avait sa femme. Tout allait bien. Mais lors d'un voyage, avec les événements qu'on connaît, et puis il reçoit le wahi, il devient prophète, et Allah lui demande d'aller voir Pharaon. S'il n'y avait pas l'ordre d'Allah, il ne serait jamais allé voir Pharaon. Donc, il retourne auprès du palais de Pharaon, mais il a peur. Et là également, Allah Azzawajal lui demande de dépasser sa peur. Dépasser sa peur, ça veut dire dépasse tous les messages qui viennent de ton corps humain. Et tu t'en remets tu te concentres, tu as ton iman, qui est connecté avec Allah et tu as confiance en Allah. Allah Azza wa Jal lui demande, révèle à Moussa alayhi salam de défier Pharaon. De défier Pharaon et tous les sorciers d'Égypte. Là aussi, c'est une situation terrible. Et c'est pertinemment que s'il rate cette épreuve, il va être tué, mais avec lui également Haroun. Également son frère Haroun, qui lui n'était pas directement impliqué, mais il a demandé à Allah de lui donner l'aide. De lui envoyer de l'aide par l'intermédiaire de Haroun. Et donc là, quand il va défier Pharaon, Pharaon avait appelé tous les spécialistes de sihr d'Égypte dans un endroit, sur un terrain vague, où il y avait donc l'éclairage du soleil pour que tout le monde puisse voir, les ministres, le peuple était là. Il pensait humilier Moussa alayhi salam. Et là, Allah Azza wa Jal dit à Moussa, « Innaka antal a'la. » C'est toi qui vas gagner. C'est toi qui es au-dessus. Tu es seul. Il y a toi, et puis il y a ton frère Haroun. Et là, en face de toi, il y a Pharaon, il y a les princes, les ministres, et les notables, les sorciers, ainsi de suite. Allah lui dit, innaka la taraf, innaka qulna la, Allah Akbar, qulna la taraf, barakallah fik, innaka antal a'la. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, ben, il doit l'oublier. Il doit s'en remettre à la taraf, n'aie pas peur. C'est-à-dire, enlève tout ça. Mais innaka antal a'la, c'est toi qui seras au-dessus de ces gens. Et il s'en remet à Allah Azza wa Jal, et il réussit l'épreuve. Voilà donc, à travers l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, à travers l'histoire de Moussa alayhi salam, à travers les sahaba, lors de la bataille de Ahzab, quel est le résultat lorsqu'un croyant a la confiance totale en Allah Azza wa Jal? Il peut affronter n'importe quelle situation de la vie. Premièrement, il accepte les décisions d'Allah. Aussi injuste que cela peut nous paraître, cela émane de la volonté d'Allah, et là-dedans, il y a un bien, il y a un khair, il y a une éducation, il y a une épreuve pour moi, et il sait donc prendre la bonne décision. Et deuxièmement, il ne perd jamais confiance en Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette qualité, qu'Allah nous permette, à travers chaque étape de la vie, de développer yaqeen, conviction en lui, pour arriver à ce haut degré qui est at-tawakkul ala Allah, qu'Allah nous accepte. Inch'Allah, on va continuer la semaine prochaine avec Uhud, une situation identique, et par la suite, quelques versets en rapport avec la confiance en Allah Azza wa Jal. Et puis par la suite, Inch'Allah, on pourra commencer le premier hadith de Riyad al-Salihin concernant la confiance et la conviction en Allah. Qu'Allah nous accepte. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum.